y a un terme qui revient régulièrement dans vos déclarations, c'est le terme démocratie, démocratique. Le fait qu'il y ait beaucoup de spectacles qui vont se dérouler dans des nouveaux lieux, dans la nature. On va aller beaucoup à Pujo cette année, soit au lever du jour, soit en fin d'après-midi. Il y a le spectacle Nomade qui va continuer à tourner et qui se joue souvent en plein air. Le spectacle d'ouverture, la vraie ouverture avec Bintou Dembélé, ça va se faire en partie dans l'espace public. Est-ce que c'est une manière justement de casser le rapport scène-salle, de toucher un public qui, a priori, ne viendrait pas dans une salle?
Nous sommes très sensibles aux propositions artistiques qu'on n'impose pas aux artistes, mais qu'on cherche activement. Les propositions artistiques qui interrogent l'expérience du public en tant que spectatrice ou spectateur. Pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est le temps de le faire. Après le Covid, il y a effectivement une opportunité qu'on identifie dans plusieurs artistes, nombreux artistes partout dans le monde, d'interroger la place du public dans le rapport à la création. Il y a des vraies recherches qu'on a envie de partager et de soutenir parce qu'elles peuvent contribuer au changement, pas contre les habitudes, parce qu'on est amoureux, moi au moins, mais je pense que nous sommes tous encore amoureux dans Théâtrale Italienne où se présente Christian Lupa à l'opéra, ou même en Théâtrale Italienne interrogée dans ses habitudes par Bintou Dembélé, comme l'opéra du Grand Avignon. On est bien sûr amoureux du Cloître des Carmes, où se présentent Pauline Bell et Mathilde Monnier, qui n'est pas un théâtral italien, mais un espace plein air qui nous fait penser au rapport, disons, conventionnel du théâtre et en même temps qui nous fait penser à un théâtre élisabétain, etc. Mais il y a des recherches artistiques qui interpellent la place du public et la place de l'architecture du théâtre, très importantes pour arriver où nous sommes aujourd'hui. C'est sur les épaules des gens qui ont demandé pourquoi ne pas placer le public ici ou alors traiter le bâtiment comme ça, que les choses ont aussi évolué. On est très sensible aux propositions qui veulent se produire en lien avec le vivant, l'espace naturel, parce qu'on croit que c'est quelque chose qui va marquer les prochaines décennies au moins, qui nous reste en tant qu'espèce humaine peut-être, mais les prochaines décennies du théâtre, c'est les arts vivants, le théâtre au sens large, qui s'opère dans le lien avec le vivant, en produisant une expérience du spectateur et de la spectatrice qui renoue son lien aussi avec le vivant, symboliquement. On est très intéressé à des lieux d'accès facile, effectivement, l'espace public, d'accès facile dans le sens symbolique, c'est un lieu que dit la spectatrice ou spectateur, ce lieu m'appartient, c'est le théâtre qui est venu ici. On est très intéressé à des propositions de théâtre de proximité, je dirais. Je ne sais pas si l'expression existe en français, sinon je vais essayer de la soutenir et de la rendre commune. L'idée de théâtre de proximité, cela veut dire pour le Festival d'Avignon, qui est un festival qui a l'habitude d'être visité, en théâtre de proximité, rend le Festival d'Avignon en visiteur chez les autres, dont le spectacle itinérant qu'on présente en 16 communes et quartiers extramuros, dans des espaces atypiques. À partir de maintenant, une production du Festival d'Avignon qui va se présenter, tourner aussi en région toute l'année. Cette idée de théâtre de proximité nous semble absolument urgente aujourd'hui pour interpréter l'utopie de théâtre populaire de Villard et ce qui est le code génétique du Festival d'Avignon, aussi dans une société de plus en plus divisée, où le danger d'exclusion devient déjà presque revendiqué, alors où le problème de ne pas avoir accès devient un emblème, presque comme une raison de fierté pour quelques-unes et quelques-uns. Nous, on veut être là où il y a des gens qui ne se comprennent pas encore en tant que public du festival ou en tant que public des arts vivants, pour réaffirmer leur droit, même si c'est un droit qu'ils ne pratiquent pas. Je retourne au début de votre question, c'est vraiment une question démocratique.
Il y a un autre terme qui revient régulièrement aussi dans vos déclarations, c'est le terme café. Café, ce qui vous caractérise aussi, je trouve, c'est votre accessibilité, c'est-à-dire que vous pouvez passer du temps avec moi, par exemple, alors que je pense que vous avez des milliers de choses à faire aujourd'hui. Il y avait le théâtre des idées, là on va avoir le café des idées. Est-ce que ça signifie qu'il va y avoir plus de proximité, plus de familiarité dans les rencontres, dans les débats, dans les échanges autour du festival?
L'idée de café correspond déjà à une idée de convivialité liée à la pensée. Le café en tant qu'aspect fondamental du continent européen, par exemple. C'était George Steiner qui disait que tant qu'il y aura des cafés, il y aura une idée d'Europe. Alors c'est un mélange du café viennois, intellectuel, le café philosophique, mais aussi le café de ville, le café central, le café du commerce. L'idée de café comme réponse à l'histoire qui a le festival, très importante. avec une programmation de pensées, de rencontres, de débats très importante au Festival d'Avignon. Vous avez mentionné le Théâtre des Idées de l'époque de Vincent Baudry et Hortense Archambault, les Ateliers de la Pensée de l'époque d'Olivier Py. Et nous, on a essayé de répondre à notre manière avec un geste très simple, c'est de maintenir cette puissance du débat, du rencontre, ce forum, cette agora d'Avignon, mais de la centraliser dans l'espace, de dire c'est un lieu. Et tous ces débats et rencontres, la grande majorité de cette programmation va se passer dans un seul lieu. En 2023, elle sera à la cour du Quai de Saint-Louis, où il y a aussi la billetterie, etc. Et en occupant cette cour, de créer un café qui est à la fois convivial et un lieu de pensée, de recherche, de débat, une agora avec cette dimension démocratique qu'il y a le café, pour utiliser dans la même phrase les deux expressions habituelles. Mais c'est vrai que dans un café, on y va, comme moi je vais souvent, parfois on ne sait pas qui est dans la table à côté, on commence une conversation et finalement on ne sait pas si c'est la patronne d'une grande entreprise, si c'est un ouvrier, c'est quelqu'un qui boit un café comme nous. Et on échange et on commence à se découvrir. Et il y a parfois des liens inattendus qui se passent. Ce matin, par exemple, avec un des travailleurs du festival que je connais peu, je buvais un café ici dans le patio, la petite courette cachée qu'on a où on boit des cafés, nous, l'équipe du festival. Et je passe peut-être plus de temps que ce que je devrais. Et on a commencé à discuter à propos d'une région. J'entendais énormément de choses. Et moi, je me suis dit, ah, ça serait intéressant, je vais visiter, etc. Et il y a des choses qui se produisent, qui ne sont pas dans le contexte du travail. On n'avait pas un rendez-vous pour discuter sa connaissance du territoire. Mais en fait, dans le café, c'est là où se font les liens inattendus qui peuvent produire des idées qu'on n'aurait pas tout seul ou que dans le contexte du travail, siégé par le besoin de productivité, on ne serait pas capable de produire. Alors c'est dire que, comme disait Richard Feynman, prix Nobel de la physique, ses meilleures idées, il les avait à la cantine de l'université, parce qu'il ne pensait pas à la solution, il échangeait, et soudain la solution était là, les synapses inattendues étaient là. Et après, il faut aller au travail et produire quelque chose à partir de ces idées. Mais c'est vrai que c'est dans le loisir, c'est dans le temps d'échange libre, c'est dans la pause qui parfois se produisent les choses qui font avancer la société, dont l'énorme besoin d'équilibre entre le travail lui-même et la pause. Après, moi, j'ai la chance de travailler dans quelque chose qui me passionne et de me permettre parfois de ne pas tellement faire la frontière entre travail et loisir. Mais je fais partie d'une très petite minorité dans le monde. La plupart d'entre nous, les humains, doivent travailler dans des choses qui ne les passionnent pas tellement. Alors là, on doit penser surtout à la majorité. Et la majorité, pour être dans la pensée, a besoin de la convivialité. Pour entendre une scientifique parler de, je ne sais pas, Frédéric Aïtouati parler de l'histoire de la crise écologique, ou pour entendre Chimamanda Ngozi Adichie parler de l'afroféminisme, je préfère que les gens soient en train d'être à la table, en train de boire un pacalo, exposés à ces idées, que de ressentir qu'ils doivent obéir à un protocole qui sont, disons, entre guillemets, au travail.
Une dernière question, Thiago Rodriguez, pour en revenir à la langue anglaise. La culture anglo-saxonne, c'est la maîtrise du récit, bon, Shakespeare. La culture anglaise, c'est un goût quand même pour la fantaisie, l'absurde, Peter Sellers, Monty Python, là avec le spectacle de Alistair McDowell, qui va être en nomade, il va y avoir beaucoup d'humour. Et puis, la musique anglo-saxonne, c'est quand même la plus grande des musiques populaires. Et avec les concerts que vous proposez, les spectacles, vous montrez ça aussi, c'est que finalement, la langue anglo-saxonne, c'est une langue qui est vraiment populaire, mais dans le meilleur sens du terme.
Là, vous touchez à une question très intéressante, c'est que maintenant, je vais voler votre formulation. Je n'ai pas eu jusqu'ici la capacité de le formuler comme ça. C'est que la dimension globale de l'anglais rend l'anglais une langue très populaire. C'est la deuxième langue de n'importe qui dans le monde. C'est la langue de survie. Et cela a une traduction par rapport à l'envie de souligner la dimension populaire aussi du Festival d'Avignon. Quand vous parlez des concerts, bien sûr, on parle de Lou Reed, de David Bowie, Neil Young, mais on parle aussi de trois artistes français, Léonie Pernet, Maison Tellier et City Boy Blue, à partir de l'influence de cette langue dans leur travail, qui revisite trois albums de ces trois auteurs. Il y a cette dimension aussi de traduire aujourd'hui, de produire des choses à partir de cette influence de la langue anglaise, dans ce cas dans la musique populaire. Et c'est aussi, ouais, il y a une dimension, disons, d'accessibilité de cette langue. Et je parle même aussi dans les pays anglo-saxons, où ils ont beaucoup travaillé, beaucoup évolué, si je pense par exemple au Royaume-Uni, sur la question de comment rendre accessible ce qu'on pourrait appeler, j'aime pas l'expression, mais je vais le dire parce que vous comprenez ce que je veux dire, l'autre culture, l'érudit. Comment l'érudit peut-il être accessible à toutes et à tous? Et je pense que, particulièrement au Royaume-Uni, mais dans la culture anglo-saxonne, il y a une déconstruction du protocole d'accès, notamment si on voit qu'au National Theatre à Londres, tout le monde rentre avec des verres de vin. C'est quand même particulier. Hein. Si on voit que dans les universités anglaises, tous les professeurs sont traités par leur prénom, par leurs élèves, il y a quand même une envie de rendre accessible. Et la langue joue en jeu un rôle primordial. Alors à partir de maintenant, grâce à votre question, je vais commencer à dire qu'une des raisons d'avoir choisi l'anglais, c'est aussi sa dimension populaire. C'est quelque chose que je n'avais pas encore dit, mais c'est pour ça qu'on fait ces interviews.
Ça va, la location a bien démarré?
La billetterie a très bien démarré. On a le premier jour à peu près vendu toutes les places qu'on a rendues disponibles au début. Je voudrais bien clarifier qu'il n'y a aucun spectacle qui est complet. On a des contingents, on vend par étapes et parfois les personnes face à une première tentative qui dit « billets pas disponibles, attendez, on va les rendre disponibles plus tard », commence à dire « c'est complet ». Non, on a vendu tous les billets qu'on voudrait vendre ces premiers jours. Dans les prochains jours, on va vendre encore plus de billets. Ça a démarré très bien. Il y avait un retour très important du public parce que c'est effectivement ce qu'on cherchait. L'idée d'anticiper les ventes de plus de 2 mois, de permettre qu'à partir du début avril, il y avait déjà de la billetterie, des billets à vente et pas comme habituellement en juin, permet au public de s'organiser plus tôt, permet surtout à ceux qui visitent Avignon, et on sait que c'est une bonne partie de notre public, d'acheter des billets de train plus tôt. Et on conseille énormément le train pour questions écologiques. Il faut éviter la voiture, s'il vous plaît. Moins de voitures à Avignon pendant le festival. Train moins cher, ça veut dire plus de possibilités de venir en train. Alors, plus économique pour le public, mais aussi plus écologique pour nous tous. La dimension aussi moins chère d'organisation de logements, qu'on sait qu'il y a un vrai frein, par exemple, à des gens avec moins de possibilités économiques de venir à Avignon. Les prix deviennent de plus en plus chers, et le plus proche du festival, le plus cher ils sont. Et alors, le retour, il est très bien, parce que ça permet aux gens de s'organiser plus tôt et de faire un séjour à Avignon qui est moins cher, et cela veut dire plus long.
Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée.